Gloire à Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez bien, dans l'évangile de Marc. Évangile de Marc, sans plus attendre. Évangile de Marc, chapitre 1er. Marc, chapitre 1er et verset 21. Marc, chapitre 1er, verset 21. Nous lisons ceci. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Mais qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine, il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Amen. Je vais prier notre Seigneur pour ce moment de partage de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est esprit et vie. Merci de bénir cette méditation ce matin afin qu'elle puisse être profitable pour nos cœurs, pour nos âmes, notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dans l'évangile de Marc, nous voyons la biographie de notre Seigneur Jésus. Et j'aime beaucoup cet évangile à cause de sa dynamique. L'évangile de Marc est un évangile dynamique qui rebondit d'histoire en histoire. Et là, Jésus, donc, après avoir appelé quelques disciples, il se rend à Capernaum, dans sa ville. Et le jour du sabbat, Jésus entre dans une synagogue. Et là, il va enseigner. Il va enseigner la parole de Dieu, évidemment, et Jésus est au bon endroit et au bon moment, comme nous ce matin. Amen. On est au bon endroit et au bon moment. C'est toujours bien d'aller dans les rassemblements de ceux qui aiment le Seigneur. Vous savez que Jésus, la Bible nous dit qu'il avait, Luc 4, verset 16, il avait la coutume de se rendre à la synagogue le jour du sabbat. Alors nous ne sommes plus sous la loi, nous ne respectons pas, entre guillemets, le sabbat. Le sabbat, c'est chez les Juifs. Jésus est venu accomplir la loi, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais nous nous rassemblons régulièrement, nous nous rassemblons les uns avec les autres, parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous êtes d'accord ? Dans la maison de Dieu, la synagogue, c'était en fait la maison de Dieu, le temple, si vous voulez, délocalisé en petits groupes. C'était une façon d'organiser la vie spirituelle du peuple de Dieu de l'époque. Et la Bible dit que dans cette synagogue, on y priait, mais aussi on enseignait la parole de Dieu. Et c'est important. Jésus, nous voyons que il prêchait l'évangile. Dans ce même chapitre, nous voyons que Jésus prêchait, nous dit l'Écriture, prêchant l'évangile de Dieu. Il prêche l'évangile et qu'est-ce qu'il dit ? Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Il prêche l'évangile, mais ici il est dit qu'il enseigne, c'est-à-dire qu'il va se livrer à un autre exercice qui consiste à expliquer, à instruire dans les Écritures. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'enseignement de Jésus était frappant. Lorsque Jésus enseignait, il est dit, nous l'avons lu au verset 22, ils étaient frappés de sa doctrine. Ils étaient interpellés, ils étaient, pardonnez-moi l'expression, scotchés. Ils étaient pendus aux lèvres de Jésus parce qu'il y avait, en fait, sur son enseignement, la marque de l'autorité divine. Lorsque Jésus ouvrait la bouche, je puis dire que ce n'était pas pareil. Il y a un verset qui dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Lorsque Jésus enseignait, lorsque Jésus parlait, eh bien c'était admirable évidemment, parce qu'il enseignait la parole de Dieu avec non seulement exactitude, avec autorité, mais cette autorité, elle provenait d'où finalement ? Puisque les scribes, il est dit ceci, qu'il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. En fait, l'enseignement de Jésus venait du Saint-Esprit. Amen. Jésus enseignait avec l'autorité du Saint-Esprit. Vous savez, on peut parler de Jésus, on peut discourir même de Jésus, nous aujourd'hui, mais ce qui fera toujours la différence, c'est l'onction du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord ? Jésus lui-même a été baptisé dans le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, eh bien, il a reçu cette autorité spirituelle pour enseigner la parole de Dieu. Quelques versets auparavant, nous voyons qu'il fut baptisé d'eau dans le Jourdain par Jean-Baptiste, et au moment où il sortait de l'eau, nous dit l'Écriture, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Jésus a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi son enseignement possédait une autorité redoutable. Alléluia ! Alors je me pose la question, je vous pose la question, est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit ? Vous savez, ça fait la différence. On peut parfois parler comme Apollos, l'Écriture dit dans les Actes des Apôtres, que Apollos enseignait certes avec exactitude en ce qui concerne Jésus, mais c'est quand il va recevoir le baptême dans le Saint-Esprit qui lui sera enseigné par Aquilas et Priscille, que son ministère va prendre une autre tournure, une autre dimension. Quand il va être baptisé dans le Saint-Esprit, l'Écriture dit qu'il sera ensuite, il se rendra très utile à ceux qui avaient cru. Alors si on veut être utile dans notre enseignement, dans notre témoignage, si on veut de la puissance, il est important d'avoir le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus, dans cette synagogue, va parler, va enseigner avec autorité. Et il nous est dit que dans cette synagogue, il se trouvait là un homme qui avait un esprit impur. C'est étonnant déjà qu'on puisse trouver dans un lieu saint, dans un lieu consacré, dans un lieu où Dieu est censé être un homme avec un esprit impur. Vous ne trouvez pas ? Ça m'a toujours interpellé cela. Alors peut-être cet homme y venait-il pour trouver du secours, pour trouver la délivrance. Mais vous voyez avec l'enseignement des scribes qui était limité dans l'autorité, il n'y a rien qui se passait. Mais à partir du moment où Jésus est là, au milieu d'eux, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, alors là, les choses vont commencer à bouger un peu. Jésus a amené le royaume avec puissance. Voyez, il n'est pas dit, par exemple, dans ce chapitre, que Jean-Baptiste a chassé les démons. Il a prêché la repentance, mais Jésus a prêché la repentance, mais pas seulement. Jésus a prêché le royaume de Dieu, en disant le royaume de Dieu est proche, pas simplement dans le temps, mais il est proche aussi dans l'espace. Il est là au milieu de nous maintenant. Comment ? Par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit, et le Saint-Esprit chasse les démons. Amen. Cet esprit impur installé dans cet homme va interpeller Jésus dans cette synagogue en criant. Imaginons ce matin que quelqu'un, et ce n'est pas quelqu'un en fait, c'est l'esprit qui était en lui, va interpeller le maître publiquement en lui disant « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » En fait, il y a un choc entre l'impureté et la sainteté. Voyez, cet esprit impur ne supportait pas la sainteté de Jésus. C'est normal que quelqu'un qui vit dans l'impureté soit dérangé dans la présence de Jésus. C'est normal que l'impureté, que le péché, que les ténèbres, lorsque la lumière de Jésus se manifeste, c'est tout à fait normal que ça dérange un peu. Voyez, quand on prend un bloc de glace ou de l'eau froide et qu'on y trempe dedans quelque chose de bouillant, il va sur le plan chimique ou physique se passer quelque chose. Il va y avoir une réaction physique. On parle de choc thermique, de choc thermique. Et voyez, parfois, quand on va dans certains endroits, si on est rempli du Saint-Esprit, et en passant, le Saint-Esprit est saint, eh bien, ça va déranger, ça va mettre mal à l'aise. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que quand vous allez quelque part, parce que vous êtes des chrétiens, vous aimez Jésus, vous êtes consacrés à Dieu, eh bien, les gens autour de vous sont un peu mal à l'aise. Ça ne devrait pas, quelque part. Eh oui, mais le Saint-Esprit dérange. La vérité dérange. La présence de Dieu dérange. Et le diable et les démons ne supportent pas la présence de Dieu. Il va dire, qu'y a-t-il entre nous et toi ? En d'autres mots, le démon lui dit, de quoi te mêles-tu ? Ce que disent certains traducteurs. Jésus de Nazareth. D'autres disent, mêle-toi de tes affaires. Ouh. Ils n'ont pas envie de partir. Ils n'ont pas envie de quitter ce lieu de possession. Mais vous voyez, ils ont trouvé plus fort qu'eux. Jésus est plus fort que les démons. Et Jésus se mêle. Jésus a envie de se mêler. En fait, Jésus est venu pour cela. Jésus est venu pour déranger. Jésus est venu pour délivrer les âmes qui étaient sous l'emprise des ténèbres. Ils vont dire, tu es venu pour nous perdre. Les démons sont conscients. Ils sont très conscients de leur avenir. Et ils vont dire, je sais qui tu es, le Saint de Dieu, le Saint de Dieu. Jésus est le Saint de Dieu. Et sans doute, frères et sœurs, que la clé, je dirais, de l'autorité spirituelle, les scribes, les gens qui étaient là ont été stupéfaits et diront, mais il commande avec autorité aux esprits impurs et lui obéissent. Je me suis dit en lisant ce texte que la clé de l'autorité spirituelle, c'est la sainteté. Quand je vis dans la sainteté, quand je vis dans l'intégrité, j'ai de l'autorité. J'ai de la puissance. Par contre, si je vis dans le compromis, si je ne suis pas consacré à Dieu, je pourrais crier, je pourrais me débattre, je pourrais faire des tas de choses, je n'aurai aucune espèce d'autorité spirituelle. Par contre, si je suis saint, vous savez, la Bible dit que nous devons être saints comme il est saint. Si je suis saint dans ma vie spirituelle comme il est saint, alors j'aurai les mêmes résultats qu'il a eu. Je vais chasser les démons. Pas simplement par la foi, mais par ma vie. Alléluia! Et Jésus va le faire, il va chasser le mauvais esprit, il va prendre autorité par sa parole, je dirais, en le menaçant. Jésus est une menace pour le monde des ténèbres. En disant ceci, tais-toi et sors de cet homme. Tais-toi et sors de cet homme. Verset 25. C'est la même expression que Jésus utilise lorsqu'il s'adresse à la mer et au vent lorsque c'est la tempête. La même. Jésus menace le vent et la tempête. Parce que, en l'occurrence, derrière aussi les circonstances défavorables de nos existences, derrière les tempêtes de nos vies, eh bien, il y a aussi parfois le monde des ténèbres qui se cache et qui veulent nous faire chavirer. et il faut se lever avec l'autorité de la parole de Dieu et dire à Satan et aux démons, silence, tais-toi. Il faut prendre autorité sur les circonstances et les mauvais esprits. Jésus ne permet pas aux démons de parler. Jésus ne laisse pas le diable prendre le dessus. Jésus ne le laisse pas s'exprimer. Il lui ordonne de se taire. Et l'Écriture dit que l'esprit sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Il y a toujours une lutte et un combat. Satan ne lâche pas, les démons ne lâchent pas facilement. L'ennemi ne lâche pas facilement. Est-ce que je peux dire aussi que le péché ne lâche pas facilement? Jésus vient libérer, mais il faut prendre autorité, bien-aimé, sur le mal et sur le péché. Jésus est venu pour cela. Alléluia! J'aime Jésus. J'aime Jésus parce que Jésus ne nous laisse pas, frères et sœurs, chers amis, dans la difficulté, dans la souffrance et dans la misère. En fait, Jésus est venu, acte 10, verset 38, il est venu pour perdre les ténèbres, mais pour faire briller sa lumière, dans ta vie et dans la mienne. Quand on va dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, on va parler de Jésus ce matin, qui libère et qui restaure les vies et les cœurs. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, l'Écriture nous parle de Jésus. Alléluia, j'aime Jésus. Est-ce que vous aimez Jésus? Dis à ton voisin, j'aime Jésus. Allez, vas-y, dis-lui, j'aime Jésus. Il libère. Il restaure, il guérit les cœurs brisés. J'aime Jésus. Il n'y a rien qui peut lui résister. Et ce matin, moi, ma prière, c'est que rien ne lui résiste. Mais que le mal, le péché, les ténèbres reculent au nom de Jésus. Et dans Jean 21, c'est les disciples qui sont déconnectés, qui sont déprimés. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin. Vous savez, dans les réunions de Jésus, il y a toujours des choses qui se passent. Et moi, j'espère que ce matin, il va se passer des choses dans les cœurs et dans les vies. Amen. Dans l'évangile de Jean, chapitre 21, les disciples sont déprimés parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et Jésus va les restaurer, va les réhabiliter quelque part. Vous savez que ça peut arriver qu'en tant que chrétien, même après avoir été délivré, que quelque part nous retombions. La Bible dit que le juste tombe sept fois et il se relève. Ça peut arriver. Ça peut arriver aux croyants de la nouvelle alliance de connaître, de rencontrer des échecs dans la vie. Mais c'est toujours possible avec Jésus de se remettre de nos échecs. Dans l'évangile de Jean, chapitre 21, nous voyons les disciples désappointés, ils retournent à la pêche, ils retournent à leur ancienne vie, ils sont découragés. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus va les réhabiliter. Comment? Ils vont reconnecter avec sa présence. Alors qu'ils vont travailler toute la nuit sans rien prendre, ils sont découragés, ils sont dans l'échec spirituel, matériel, dans tous les domaines. Ils sont désappointés. Jésus va revenir là au bord du rivage. Ils vont reconnecter, ils vont découvrir qu'il est là, le Seigneur. Ce matin, le Seigneur est là, bien-aimé. Il est présent. Ils vont reconnecter avec sa parole. Jésus va leur parler. Amen. Est-ce que vous aimez que Jésus vous parle? Moi, j'aime que Jésus me parle. Et parce que Jésus va leur parler, ils vont jeter les filets, vous connaissez l'histoire, et ils vont vivre une pêche miraculeuse. Amen. Jésus va les reconnecter avec sa présence, avec sa parole, et ils vont redécouvrir le succès et la bénédiction. Amen. Mais Pierre a dans son cœur un peu de découragement, il est encore abattu. Pourquoi? Parce qu'il est dans le passé. Il est encore dans son échec. Bien-aimé, il ne faut pas vivre dans le passé. Hein, il faut vivre dans le présent et le futur. Notre futur est beau, amen. Notre futur est beau. Et quand Jésus va parler à Pierre, il va le restaurer et il va le sortir de son passé et il va le projeter dans l'avenir. Ce matin, Jésus a un avenir pour toi. Jésus veut te bénir ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse lire, si vous voulez bien, maintenant le psaume 45, qui est un psaume magnifique, qui nous parle du Fils de l'homme, de Jésus, ce Jésus merveilleux qui vient, qui restaure, qui guérit, qui libère. Alléluia. Amen. Jésus libère, Jésus restaure. Au chef des chantres, psaume 45, sur les lys des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Amen, amen. Vous savez, Jésus veut une relation d'amour avec nous. Amen. Avant, il y avait un cantique qui disait « Je veux chanter un chant d'amour, dans tes bras d'amour, Seigneur. C'est là que je suis bien, tout près de toi. » Le psalmiste dit ceci, c'est le psaume des noces du roi. « Des paroles de charme bouillonnent dans mon cœur. » Je ne sais pas ce qui bouillonne dans ton cœur ce matin, mais le psalmiste avait dans son cœur des paroles pleines de charme. Vous savez, des fois, on vient louer le Seigneur Jésus et on a du mal à le louer. Pourquoi ? Parce que dans notre cœur, il n'y a peut-être pas assez de paroles de Dieu, de paroles pour le Seigneur. Et le psalmiste dit que ma langue, que je dis mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Vous le savez, moi j'aime bien faire des poésies, mais c'est important qu'on ait pour le Seigneur, mais pas seulement, hein, d'une manière générale, une langue qui soit utile. Parfois nos langues, malheureusement, elles ne sont pas toujours comme la langue d'un habile écrivain. Parfois, nos langues, elles font du mal. Parfois, nos langues, elles sont dures, elles sont blessantes. Des paroles peuvent être dures et pas bienveillantes. Et pas que à l'égard des frères, des sœurs et des amis de ce monde, hein, mais parfois même à l'égard de Dieu. À un moment donné, le Seigneur, dans sa parole, dira « Vos paroles sont dures à mon égard. » C'est Dieu qui dit ça. Parce que Dieu entend tout. Non seulement il voit tout, mais il entend. Et il sait tout. Alors ce matin, que nous puissions avoir dans notre cœur des paroles qui bouillonnent, des paroles plaisantes au Seigneur. Amen. Voici ce qu'il dit. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Ça, c'était les paroles de Jésus, les paroles du roi, les paroles du maître. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Il est question de Jésus ici, de ce vaillant guerrier, de ce trône, si vous voulez, de ce souverain davidique, de ce descendant de David. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours le sceptre de ton règne, est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice. Et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Alléluia. En fait, c'est l'image d'un mariage, d'une noce, d'une célébration. Et le roi ici est... Et finalement, décrit comme il sent bon le Seigneur, il a une huile de joie qui est sur lui. Amen. Est-ce que les mariages, c'est un jour de joie? Oui. Est-ce que quand on va être avec Jésus, les noces de l'agneau, ça va être la joie? Oui, ça va être la joie. Vous savez qu'un jour, on va fêter ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. Un jour, on va être dans le ciel et la fiancée, l'épouse de Jésus, qui est l'Église, va retrouver le roi des rois, son époux qu'elle a tant aimé, tant servi, tant attendu. Et on va se réjouir, ça va être la fête là-haut. Amen. Mais on ne veut pas attendre d'être là-haut pour nous réjouir. On veut déjà, par anticipation, se réjouir dans la présence de Dieu, se réjouir dans la maison de Dieu, se réjouir dans sa présence. Le Seigneur aime qu'on le serve avec joie. Amen. Le Seigneur a une huile de joie par privilège sur ses collègues. Il avait une onction particulière, celle dont on parlait tout à l'heure. Et il est dit, verset 10, des filles de rois, chapitre 45, psaume 45, des filles de rois sont parmi tes bien-aimés, la reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. En fait, c'est l'épouse du Seigneur qui est appelée à oublier son passé quelque part et à se projeter dans l'avenir avec son époux glorieux qu'est le Seigneur. Amen. Pourquoi le roi porte ses désirs sur ta beauté? Vous savez que le Seigneur nous voit beau? Il porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, en lui tes hommages. Le Seigneur nous voit beau. Des fois, on voit les défauts les uns des autres. Oui ou non? Des fois, on voit les choses qui ne vont pas. Mais le Seigneur, lui, voit son épouse belle. L'épouse qu'il revient chercher, elle est sans tache et sans ride, la Bible dit. Elle n'a rien de semblable. Elle est belle, elle est pure, elle est sainte. C'est l'épouse du Seigneur. Bien sûr, il faut garder sa robe, hein. Il faut garder son cœur. Il faut se garder pur pour le Seigneur. Mais la Bible dit que le Seigneur porte ses désirs sur la beauté de l'Église, sur la beauté de ses enfants. L'Écriture dit que le Seigneur vit Moïse qui était beau. Il était beau aux yeux du Seigneur, alors qu'il était tout petit, tout bébé. Moi, je crois que le Seigneur nous voit beau ce matin. Dis à ton voisin, arrête de regarder les défauts des gens. Commence à regarder les qualités. Allez, vas-y, dis-lui, dis-lui. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi. Voilà comment elle est l'épouse. Vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront-ils éternellement et à jamais. Qu'il est beau ce psaume, frères et sœurs. Qui nous parle de l'époux d'un côté et de l'épouse de l'autre qui se prépare à la rencontre de son époux. L'époux est dans la joie, l'épouse est dans la joie également. Il y a une atmosphère de joie et c'est ce que j'aimerais qu'il y ait ce matin dans la maison de Dieu. Vous savez que la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons dans la tristesse, dans le découragement, mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans la joie. À chaque fois que l'évangile a été prêché quelque part, la joie a pris place, et même l'allégresse. Alléluia! Et la Bible dit que le nom de Jésus est quelque part glorieux, vous ne trouvez pas? En fait, ce chant d'amour pour le roi est un chant d'exaltation qui nous rappelle que le nom de Jésus est glorieux. Je rappellerai, dit ce psaume, ton nom dans tous les âges. Il y a un ancien cantique qui dit « Le nom de Jésus est si doux ». Vous savez, nous parlions tout à l'heure de Jésus qui chasse les démons. Mais voici comment nous pouvons chasser les démons. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons. Je crois que quand on aime Jésus, quand le nom de Jésus est dans nos vies, une réalité, alors le mal, le péché, les démons s'enfuient. Je rappellerai ton nom, le nom de Jésus, ce nom puissant, ce nom glorieux. Vous savez, Jésus n'est pas, je dirais, un simple homme. Hein ? Il est le Fils de Dieu, il est Dieu fait homme. Et il est venu pour nous bénir, nous faire du bien. Et il est venu pour toutes les générations. Il est venu pour moi, mais pour toi et pour les enfants même qui sont là dans cette salle. Amen. Vous avez remarqué dans ce psaume, il est même dit « Tes enfants prendront la place de tes pères ». Le territoire, en fait, c'est la roue qui tourne. Les enfants prendront la place de tes pères. Les hommes passent, mais le nom de Jésus demeure. Les gens passent, les serviteurs de Dieu passent, mais le nom de Jésus demeure. Et c'est à Jésus qu'on doit être attaché. C'est à lui, à sa présence qu'on doit être attaché. Au nom de Jésus, les démons s'enfuient. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Dans les Actes des apôtres, Pierre et Jean diront, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le nom de Jésus. Je ne sais pas si vous le citez souvent dans vos journées, mais lorsqu'on prie également, frères et sœurs, lorsqu'on prie, nous sommes exaucés au nom de Jésus. L'Écriture dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus qui le dit. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le nom de Jésus, c'est le passe sanitaire. Le nom de Jésus, c'est le passe-droit. Le nom de Jésus, c'est ce qui nous donne accès à la bénédiction. Et lorsqu'il est proclamé, prêché, enseigné, déclaré, les démons s'enfuient, les malades sont guéris, nos prières sont exaucées. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ce matin, bien-aimés, on vient revêtu devant le Seigneur, devant le Roi, avec son nom sur nos lèvres, avec ce vêtement tissé d'or de sa justice, alléluia. Et nous sommes présentés au Roi. Vous savez, je ne sais pas comment on vient dans la maison de Dieu des fois. Comment on vient, même habillé. Allez, je vais être un peu pratique. Quand on va à un mariage, est-ce qu'on s'habille n'importe comment ? Non. Quand on va à un mariage, on est bien vêtu. On a la classe. On se met sur son 31. Vous allez dire, oui, mais pasteur, Dieu regarde au cœur et il ne regarde pas à l'apparence. Oui, mais quand on vient dans la présence de Dieu et qu'on est unis ensemble dans sa maison, finalement, je dirais que tout compte. L'intérieur compte, le cœur compte, mais même la tenue vestimentaire. Vous savez, il n'y a rien qui est écrit au hasard dans la parole de Dieu. On s'habille en conséquence. On s'habille comme il faut. Alors je dirais, moi par exemple, que quand on vient à l'église, on vient à la rencontre du roi, on ne vient pas comme si on était à la plage. Non ? Dans la maison de Dieu, le dimanche matin, on n'est pas à la plage. Il y en a des fois, ils viennent en espadrille, en bermuda, en tongs. Bon, Dieu vous aime quand même, hein ? Il n'y a pas de problème. Mais voyez, quand on a la crainte du Seigneur, tout compte, même ces choses-là. On fait attention à tout. On fait attention même à la manière dont on est vêtu, bien sûr, de façon sobre, de façon pure, de façon correcte, parce que Dieu aime la sainteté. Vous savez, la Bible dit que la sainteté, parce qu'il est roi, parce qu'il est Dieu, il est très saint, convient à sa maison. La sainteté convient à sa maison. Et quand je viens devant Dieu, quand je viens devant le trône de Dieu, je viens dans la joie, certes. Je viens en remplant son nom glorieux, mais je viens de manière vêtue à la gloire de Dieu parce que je veux l'honorer de toute manière. Le Seigneur me voit beau, mais je veux faire en sorte de l'être. Alléluia. Amen. Je veux que le Seigneur soit glorifié cet été dans la maison de Dieu. Je veux qu'il ait la première place dans nos cœurs. Je veux que nous continuions à aimer Jésus. Et si vous avez besoin d'être rafraîchi dans la communion avec Jésus pour connaître de mieux en mieux le Seigneur Jésus, lisez la parole de Dieu. Lisez l'Écriture et contemplez combien le Seigneur est merveilleux et glorieux. Je vais terminer avec ceci. Il est dit ceci dans Hébreux chapitre 1er et au verset 1er, toujours pour contempler la beauté de Jésus. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, des fois on cherche une parole, cherche la parole. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Waouh ! Dieu a parlé. Moi, c'est cool que Dieu ait parlé, hein, par les prophètes et tout ça. Vous ne trouvez pas ? Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé. De plusieurs manières, et la Bible le dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu, on est dans les derniers temps. Je ne sais pas si on le réalise toujours. Mais vous savez, Jésus est à la porte et la dernière trompette va sonner. Jésus revient bientôt. Et il revient chercher son Église, celle dont on a parlé, son Église qui est fidèle, son Église qui est pure, qui va aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et Dieu, dans ces derniers temps, il s'était déjà les derniers temps, il y a 2000 ans de cela, donc imaginez maintenant. Frères et sœurs, il faut être prêt. La Bible dit « prépare-toi ». À la rencontre de ton Dieu, pas simplement quand on vient à l'église. C'est important de se préparer quand on vient à l'église, vous êtes d'accord ? Allô ? Le dimanche matin, est-ce que vous vous préparez ? Ou est-ce que vous venez en mode, on verra bien ce que le pasteur va dire ? Non, on se prépare, on prépare nos cœurs à la maison. Mais on doit se préparer pour l'avènement glorieux et le retour du Seigneur. Amen ! Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. En fait, Jésus est venu, il a parlé, il a enseigné les évangiles, etc. Nous avons ses paroles, certaines Bibles les écrivent en rouge. Dieu a parlé par le Fils, Dieu nous parle par le Saint-Esprit également. Et il est dit qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers, ou littéralement les siècles. En fait, Jésus est le créateur de tout. Au commencement, dit le prologue de Jean, j'aimerais que nous aimions Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus est à l'initiative de tout. Il a tout créé. Il a créé tous les siècles et tous les mondes. Alléluia. Et voici ce qu'il est. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. En fait, quand on voit Jésus, on voit Dieu. Quand on voit Jésus, on voit le Seigneur, Dieu lui-même. L'empreinte. On ne peut pas séparer une personne de son empreinte digitale. Jésus est l'empreinte de Dieu. Il est la marque de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Il soutient toute chose par sa parole puissante. En fait, c'est extraordinaire, mais Jésus nous soutient ce matin. On n'a pas conscience toujours de cela, Mais Jésus nous soutient. Dieu est mon soutien. Dieu est en soutien. Il nous soutient. Des fois, on se dit, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'aide. Eh bien, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et si nous avons besoin d'être soutenus, puisons dans sa parole. Et il est dit que Jésus, alléluia, et c'est pour cela qu'on le loue et qu'on l'adore, il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et je dis amen. Jésus est glorieux. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin ? Pas un homme, Jésus. On pourrait se mettre debout dans sa présence. Alléluia, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, ce matin pour toi, Jésus. Nous sommes venus pour célébrer ton nom, pour célébrer le roi des rois. Et Seigneur, nous voulons venir en ayant dans notre cœur de la louange. Nous voulons venir, Seigneur, vers toi en étant conscient de ta beauté, de ta magnificence, de ta grandeur. Ah Seigneur, il est bon de te glorifier. Il est bon de te louer. Il est bon de te célébrer. Seigneur, merci d'être là ce matin. Merci d'encourager peut-être quelqu'un qui a besoin d'être soutenu par ta parole, d'être soutenu par ta présence. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'être délivré. Mais c'est toi, Jésus, la réponse. Peut-être quelqu'un a besoin d'être restauré parce qu'il a gâché quelque chose. Mais c'est toi qui restaure ce matin, Seigneur. C'est toi qui restaure ce qui est brisé. C'est toi qui restaure ce qui est cassé. Seigneur, nous voulons le dire, tu es le plus beau des fils de l'homme. Tu es le plus beau d'entre tous les fils de l'homme. Et Seigneur, je te prie afin que tu puisses raviver au milieu de nous, en nous, dans nos cœurs, l'amour pour ta présence. Seigneur, que nous ne soyons pas comme les disciples rétrogrades, découragés, mais que nous puissions, Seigneur, reconnecter s'il en est besoin ce matin, avec ta présence, avec ta parole, avec ta grâce bienveillante, merveilleuse. Seigneur, fais du bien à ton Église. Fais du bien à tes enfants qui la rejoignent. Seigneur, encourage ce matin, dans le nom merveilleux, dans le nom tout-puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te dire, sois le roi. Aide-nous, Seigneur, aussi à satisfaire tes désirs, à satisfaire tes appétits. Quand il est dit, le roi porte ses désirs sur ta beauté. Seigneur, aide-nous à te plaire, à te satisfaire, quelque part à te contenter. Seigneur, je sais que c'est fou de le dire, mais tu as aussi des besoins, tu as aussi des désirs. Ta parole nous dit qu'un jour tu as eu faim. Tu as eu faim. Tu as eu des désirs. Un jour tu as eu besoin d'un petit anon. Tu as eu besoin. Mais voilà, malheureusement, ce petit anon n'était pas disponible parce qu'il était attaché. Et peut-être que ce matin, tu es venu dans ce lieu et tu es attaché. Il y a une chaîne qui te lie et le Seigneur a besoin de toi. Il voudrait te monter, il voudrait se servir de toi, mais voilà, tu es lié. Tu es esclave de ton péché. Tu es esclave de ta misère. Tu es esclave de ton passé. Et le roi, ce matin, il regarde, il porte ses désirs sur toi. Il a besoin de toi. Il voudrait t'utiliser, mais tu es enchaîné. Et le petit ânon avait besoin d'être détaché. Et ce matin, tu as besoin d'être détaché, bien-aimé. Parce que le Seigneur ne pourra pas t'utiliser si tu es attaché, si tu es lié. Vous allez dire, mais comment faire pour me détacher? Jésus brise les liens. Jésus libère ce matin. Il veut te libérer. Il veut te délivrer. Il porte ses désirs, il te désire, il a besoin de toi, mais tu es attaché. Il a faim, mais tu es stérile. Il vient, il cherche du fruit, il n'en trouve pas. Il cherche le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, mais il n'y en a pas chez toi. Parce que tu n'es pas connecté à la vraie source. Il y a des gens qui se débattent dans leurs efforts personnels. Je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Et peut-être c'est ton cas ce matin. Tu es stérile parce que tu ne marches pas selon l'esprit. Tu ne marches plus selon l'esprit. Et le fruit que Dieu cherche, c'est le fruit de son esprit en toi. Malheureusement, il n'y a que des feuilles. On peut venir à l'église, avoir l'apparence, dire amen quand il faut. Bonjour, ça va? Oui, ça va, mais ça va pas du tout. Parce qu'au fond de ton cœur, finalement, au fond de ton cœur, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'amour. Et vous savez, c'est ce fruit-là que Jésus cherche. Et le roi, ce matin, il porte ses désirs sur ça. Oh, j'aime Jésus. Mais est-ce que toi, il pourrait trouver en toi celui ou celle qui va contenter, satisfaire ses appétits? Vous savez, il y a des gens qui prennent toujours. Donne-moi Jésus. Mais si Jésus te dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de t'utiliser. Si Jésus dit, j'ai faim de toi, j'ai faim de ce fruit de l'esprit dans ton cœur, est-ce qu'il va le trouver ce matin? Ou est-ce que la source est tarie, le fruit n'est plus là? Est-ce que les petits renards qui ravagent les vignes sont passés par là? Vous savez, il y a des choses qui, dans le souterrain de nos vies, nous détruisent et nous empêchent de porter du fruit. Les œuvres de la chair, l'animosité, les rancunes, les querelles, les disputes sont tout autant de choses qui tuent, qui ruinent la vie de l'esprit. Ça ruine la vie de l'esprit. Et si tu veux ce fruit ce matin, il faut laisser couler à nouveau le fruit de l'esprit. Si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Et je crois que Jésus ne se satisfera pas, frères et sœurs, d'apparence seulement. Jésus veut la réalité dans notre cœur, la réalité de la foi, la réalité de la vie de Dieu en nous. C'est ce qui le nourrit, c'est ce qui le bénit. Alléluia! Seigneur, je te prie ce matin, alors que tes désirs se portent sur nous et sur ton Église, je te prie qu'en retour, nous puissions satisfaire tous tes désirs, comme toi, tu as satisfait les nôtres, Seigneur. dans le nom de Jésus. Bénis ton Église. Seigneur, je ne veux pas avoir un message de condamnation, mais peut-être nous interpeller ce matin à la lumière de ta parole. Seigneur, ravive l'amour et aide-nous, Seigneur, à être ce petit anon libre que tu pourras monter. Aide-nous, Seigneur, à être ce figuier qui porte beaucoup de fruits, qui porte beaucoup de fruits pour ta seule et unique gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis ton Église ce matin. Bénis ton peuple, encourage-le, Seigneur, et que le Saint-Esprit coule à flot au milieu de nous avec puissance et dans le nom merveilleux de Jésus. Et si vous êtes d'accord, on peut dire Amen, Amen et gloire à Dieu.